Il est l'heure de retrouver le journal de 18h de France Culture, car c'est l'heure. Très exactement. Et le journal nous est présenté ce soir par Anne Fauquemberg. Bonsoir Anne.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Des scènes d'explosion de joie dans les rues de Beyrouth au 13e jour du mouvement de contestation de la classe politique. Le premier ministre libanais, Saad Hariri, a annoncé sa démission. Intervention de quelques minutes suivie par Valérie Crova. Nous ferons le point au début de ce journal. L'Irak également en proie à un mouvement populaire depuis près d'un mois. La contestation sociale a dégénéré aujourd'hui, des forces de sécurité qui ont tiré à balles réelles sur les manifestants. Les précisions à suivre de Nadine Epstein. L'horizon se dégage. Gâche-t-il pour Boris Johnson, le Premier ministre britannique qui a gagné 3 mois pour faire passer le Brexit. L'opposition travailliste a accepté la tenue d'élections anticipées ce matin. Nous ferons le point avec Antoine Gignot. En France, le Sénat a entamé l'examen de la proposition de loi LR qui vise à interdire le port de signes religieux aux parents accompagnateurs des sorties scolaires, compte rendu à venir de Pierre Neveu. Et puis, la grève se poursuit sur l'axe ouest à la SNCF. Le reportage d'Hakim Kasmi au siège du groupe à Saint-Denis. Les cheminots du technicentre de Châtillon tentent de négocier directement le paiement de leur jour de grève avec la direction. Des feux d'artifice tirés dans Beyrouth, des voitures qui sillonnent la ville en signe de victoire, l'hymne national repris à plein poumon par les manifestants. Au 13e jour d'un mouvement de révolte inédit contre les élites au pouvoir du Liban, le Premier ministre s'est exprimé cet après-midi. Saad Hariri a annoncé sa démission et celle de son gouvernement. Une intervention courte suivie par Valérie Crova.
Dans une courte allocution, Saad Hariri explique les raisons qui le poussent à remettre sa démission.
Aujourd'hui, je ne vous cache pas que je me trouve dans une impasse et il est temps de donner un grand choc pour faire face à la crise. Je fais appel à tous les Libanais de donner la priorité à l'intérêt du Liban, à l'intégrité du Liban, à la paix civile du Liban et à endiguer la dégradation économique. Notre responsabilité aujourd'hui est de protéger le Liban et d'endiguer tout incendie.
La démission de Saad Hariri était l'une des revendications des manifestants, mais pas la seule. C'est toute la classe politique libanaise qu'ils jugent corrompue et le système confessionnel qu'ils veulent voir changer. Le peuple veut la chute du régime. Reprennent-ils tant cœur à chaque rassemblement, s'inspirant du slogan phare des printemps arabes? Que ce soit à Beyrouth, la capitale, ou dans les autres grandes villes libanaises comme Tyr au sud ou Tripoli au nord, le Liban est paralysé depuis 13 jours. Les banques sont fermées, tout comme les universités et les écoles. Et des tensions sont apparues entre les manifestants et des partisans du puissant mouvement chiite du Hezbollah, qui se retrouve aujourd'hui au centre de toutes les attentions. Son chef, Hassan Nasrallah, était contre la démission du gouvernement auquel il appartient.
Et la France appelle ce soir tous les responsables libanais à garantir la stabilisation des institutions et l'unité du pays. Le ministre français, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, s'est exprimé à l'Assemblée nationale tout à l'heure. Le soulèvement populaire prend aussi de l'ampleur en Irak, contestation qui a démarré au début du mois d'octobre. Les habitants sont eux aussi en colère contre la corruption de leurs dirigeants. Ils réclament notamment un gouvernement de transition et une nouvelle constitution, manifestation violente. 240 morts et plus de 8000 blessés depuis le début du mouvement, Nadine Epstein.
Le pouvoir irakien n'est pas parvenu à instaurer un couvre-feu de minuit à 6 heures à Bagdad. Des milliers de manifestants convergent vers la place Tahrir, occupée jour et nuit depuis 5 jours par une contestation anti-régime. Le mouvement s'étend à plusieurs autres villes du pays, à Najaf, où selon l'AFP, Moqtada Sadr, le leader irakien, manifeste. Une cinquantaine de ses députés ont annoncé quitter la majorité parlementaire. À Kerbala, une autre cité sainte chiite, au moins un manifestant a été tué et 122 personnes blessées, dont 66 forces de sécurité, ce que dément le chef de la police locale. Les contestataires sont visés par des tirs à balles réelles et eux-mêmes les utilisent. Selon des chiffres officiels, depuis le 1er octobre, il y a eu 240 morts et 8000 personnes blessées. Mais le nombre de victimes risque vite de grimper. Malgré la répression, le mouvement se radicalise. Outre les sit-ins, les syndicats d'enseignants, d'avocats et des dentistes ont lancé des grèves illimitées. Dans plusieurs provinces du Sud, les administrations sont bloquées par des des piquets de grève. Des dizaines de sièges de partis ont été incendiés et les gardes protégeant les bâtiments tués ou asphyxiés. Les Irakiens dans la rue exigent le départ du gouvernement de Mahdi et des élites politiques qu'ils jugent corrompues. La corruption a déjà englouti 410 milliards d'euros de fonds publics, soit le double du produit intérieur brut irakien, deuxième producteur de l'OPEP.
En Syrie, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 6 soldats du régime de Damas ont été tués dans des affrontements avec les forces turques au nord du pays. Par ailleurs, Moscou affirme que le retrait des forces kurdes est terminé dans cette même zone. Le conflit syrien qui dure depuis 2011, conflit complexe marqué par une multitude d'acteurs, se dirige-t-on néanmoins vers un procès pour les atrocités commises par le régime de Bachar al-Assad. 2 Syriens, 2 anciens membres des services secrets de cette personnalité centrales dans le conflit ont été mises en accusation en Allemagne. Ils sont poursuivis pour des crimes contre l'humanité, Ludovic Piétenu. Cette procédure pourrait ouvrir la voie au premier procès au monde pour des exactions en Syrie.
Depuis 3 ans, des plaintes s'entassaient sur le bureau d'un procureur allemand déposé par ceux qui ont survécu à ces tortures ou bien des parents, des militants ou des avocats syriens. Les enquêteurs de Karlsruhe dans l'ouest, tout près de la frontière française, ont entendu 52 témoins, des Syriens exilés en Europe qui ont fui, tout comme les 2 suspects, arrêtés en février en Allemagne où ils vivaient discrètement depuis 2012. Ils n'ont absolument pas cherché à nier les faits, cela faisait partie de leur travail, ont-ils déclaré, en racontant, tout comme l'ont fait les victimes ou les témoins, les méthodes brutales utilisés, les coups de poing, de bâtons, de tuyaux, de câbles, de fouets, des chocs électriques, des dos brûlés, des viols. L'un, un colonel, dirigeait la prison, il supervisait les interrogatoires et les tortures. Le second, à la tête d'une escouade, lui apportait les manifestants qu'il chassait dans les rues de Damas et de sa banlieue. Ils devront répondre de leurs actes en début d'année prochaine devant le tribunal de Koblenz sur les bords du Rhin pour la torture d'au moins 30 personnes, le premier procès pénal au monde sur la torture en Syrie.
Les précisions de notre correspondant à Berlin, Ludovic Piétenu. L'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, a un nouveau directeur général. L'Argentin Rafael Grossi a été élu ce midi à la tête de l'institution en charge notamment du contrôle des activités nucléaires de l'Iran. Au Royaume-Uni, au lendemain d'un nouveau report du Brexit, report qui vient tout juste d'être entériné par les 27 États membres de l'Union européenne, le Parti travailliste, principale formation d'opposition, donne finalement son accord pour l'organisation d'élections anticipées. Pour le chef de file, Jeremy Corbyn, le report accordé par Bruxelles donne en effet la garantie qu'il n'y aura pas de sortie sans accord, pas de no deal. Donc, bonsoir Antoine Gignot.
Bonsoir.
Le chef de file du Parti travailliste était un peu contraint et forcé.
Oui, pour les travaillistes, ce n'est vraiment pas le moment idéal. Il reste à la traîne dans les sondages avec une dizaine de points de retard sur les conservateurs. Mais Jeremy Corbyn n'a pas le choix. À 3 reprises, il a déjà dit non à des législatives anticipées. Trop tôt, trop risqué, disait-il. Il avait peur que le gouvernement profite de l'occasion pour faire sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne le 31 octobre sans aucun accord. Mais la menace est désormais écartée. Les conservateurs, les indépendantistes écossais, les libéraux-démocrates, tous sont d'accord pour organiser le scrutin. Un refus de la gauche serait catastrophique pour l'image du parti, déjà accusé par ses adversaires de freiner le processus démocratique. En théorie, toutes les conditions sont donc maintenant réunies pour que les Britanniques se rendent aux urnes mi-décembre, toutes ou presque, parce qu'il reste une petite incertitude. L'opposition et le gouvernement ne sont pas d'accord sur la date du scrutin. Boris Johnson propose le 12 décembre, les libéraux-démocrates le 11, les travaillistes le 9. Et puis surtout, l'opposition a déposé cet après-midi des amendements en pagaille qui perturbent le jeu politique. Nous sommes d'accord pour ces élections, disent-ils, mais nous voulons que les 16-18 ans puissent participer au scrutin, tout comme les citoyens européens. Le gouvernement a déjà prévenu, si les amendements sont validés, on annule tout, pas de Brexit, pas d'élection. Retour à la case départ.
Merci Antoine Gignot pour vos précisions en direct de Londres. L'avionneur européen Airbus remporte un méga contrat avec la compagnie indienne à bas coût Indigo. Ce sont 300 Airbus de la famille A320neo qui ont été commandés. Le montant de ce marché s'élève à 33 milliards de dollars. La réussite de l'avionneur européen contraste avec les déboires de l'américain Boeing. Le patron de la compagnie s'exprime en ce moment même devant le Congrès américain. Ses auditions sont cruciales pour son avenir à la tête de la firme. Il doit aussi regagner la confiance du grand public après 2 crashs du modèle 737 Max, 2 crashs qui ont fait 346 morts. Les précisions de notre correspondant Loïc Loury.
Répondez à la question, monsieur Muhlenberg. Voilà qui donne le ton de cette journée d'audition. Le directeur général de Boeing, malgré la présence de proches de victimes dans son dos, temporise, élude et tient sa ligne.
Nous pouvons et devons faire mieux. Cet accident est un défi. Il nous a changé. Nous avons fait des erreurs. Nous nous sommes parfois trompés. On s'améliore. On apprend et on va continuer d'apprendre.
Le MCAS, système mis en cause dans les deux crashs, n'aurait, dit-il, pas de problème de conception. Il a pourtant été pointé du doigt par des pilotes avant même l'entrée en service du 737 MAX. Une sénatrice lui fait remarquer.
Vous saviez en 2016 que cela allait arriver et votre équipe à Boeing, vous vous êtes dit, on n'a pas besoin de réparer.
Mais si Muhlenberg écarte chaque argument, ces deux journées d'audition n'en promettent pas moins d'être longues.
Ma colère n'a fait que grandir. Ces gens sont morts à cause d'un accident qui était non seulement évitable, mais était le résultat d'une stratégie délibérée de dissimulation. Ces pilotes n'ont jamais eu la moindre chance. Ces proches n'avaient aucune chance. Ils étaient dans un cercueil volant.
Et s'il ne devrait pas éclairer beaucoup les élus des deux chambres, il ne devrait pas non plus rétablir la confiance perdue par Boeing.
En France, plus de 15 jours après la polémique sur le voile déclenchée par un élu RN de la région Bourgogne-Franche-Comté, le Sénat a examiné cet après-midi une proposition de loi LR à ce sujet. Elle concerne le port de signes religieux pour les parents accompagnateurs des sorties scolaires. Le sujet est d'autant plus sensible que l'examen du texte se fait au lendemain de l'attaque menée à Bayonne par un ancien candidat du FN, attaque qui a fait 2 blessés graves. Bonsoir Pierre Neveu.
Bonsoir.
Au cours de ce débat, le ministre de L'éducation a rappelé son opposition à la proposition de loi des Républicains. Selon Jean-Michel Blanquer, un nouveau texte pour interdire le voile aux accompagnants des sorties scolaires serait, je cite, contre-productive. En fait, Pierre, le débat a surtout porté sur tous les sujets connexes.
On peut retenir de ce grand débat un long discours, un long concours de citations. Jules Ferry, Aristide Briand, Robert Badinter et surtout Jean Zay, le ministre de l'Éducation nationale du Front populaire. Mais au-delà de la simple question de la neutralité des accompagnants lors des sorties scolaire, c'est la question du communautarisme, de la radicalisation et de l'immigration qui s'est exprimée dans l'hémicycle cet après-midi à propos des menus des cantines scolaires, du burkini ou encore de l'abattage rituel. Le sénateur LR des Hauts-de-Seine, Philippe Pemzec, allant jusqu'à dénoncer un communautarisme qui ronge la société française autour de la seule question du voile.
Si pour une mère de famille retirer son voile et montrer ses cheveux est insupportable, elle peut rester chez elle, mais qu'elle ne prétende pas collaborer à un service public laïque et démocratique si elle ne veut pas en accepter les règles. Car il faut être lucide, c'est un véritable bras de fer qui est engagé par ces femmes qui brandissent le voile comme un étendard appuyé par un communautarisme islamique politique qui s'est fixé pour objectif d'utiliser chaque faille dans notre état de droit pour y imposer sa morale religieuse.
Et c'est donc cette ligne dure des Républicains qu'a dénoncé dans la foulée l'ancienne ministre Laurence Rossignol, sénatrice pièce de l'Oise.
Mon sentiment, c'est celui très très désagréable d'être prise dans un étau. La première mâchoire de cet étau, c'est celle de la haine et du racisme. Celle qui déteste les musulmans comme elle a toujours détesté les arabes. Celle qui n'a jamais été laïque. Celle qui n'a jamais autant aimé la France que quand elle n'était pas la France. J'invite mes collègues de la droite républicaine à ne pas s'émouvoir quand je parle de l'extrême droite. Je ne parlais pas de vous jusqu'à présent.
Difficile donc dans ce contexte de centrer le débat du jour sur la seule question des sorties scolaires. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, s'est employé à déminer le terrain.
Nous n'avons pas besoin de grands débats pour nous épuiser. Nous avons besoin concrètement d'assurer un équilibre entre des positions. Mais nous avons surtout besoin de lutter contre le communautarisme, contre la radicalisation et pour la laïcité.
On le voit aujourd'hui, la droite sénatoriale a mis un peu plus la pression sur Emmanuel Macron pour qu'il clarifie sa position sur le communautarisme et la laïcité. Le chef de l'État sera peut-être amené à préciser sa pensée en tout début de soirée à l'occasion de l'inauguration du Centre européen du judaïsme à Paris.
Merci Pierre Neveu pour votre compte-rendu. Comment définir les grands signes qui permettraient de ne pas faire l'amalgame entre religiosité et radicalité? Le Conseil français du culte musulman vient de créer une commission religieuse pour répondre à cette question. Hier, le chef de l'État, Emmanuel Macron, avait appelé le CFCM à combattre aux côtés de l'État, je cite, le communautarisme et l'islamisme. L'homme suspecté d'être responsable de l'attaque contre la mosquée de Bayonne hier assure avoir voulu venger la destruction de la cathédrale de Paris, destruction l'expression qu'il attribue aux musulmans. Selon le procureur de Bayonne, le suspect est actuellement examiné par un psychiatre. L'Assemblée nationale vient d'adopter le projet de budget de la Sécurité sociale pour 2020. Le déficit programmé pour l'an prochain est d'un peu plus de 5 milliards d'euros. Les dépenses de santé sont limitées à 2,3% quand leur progression naturelle serait plutôt de l'ordre de 4,5%. Au cœur des débats ces derniers jours, il y a eu la difficile situation des hôpitaux. Toutes les oppositions ont alerté dans une ambiance souvent tendue avec la majorité. Les collectifs Interurgences et Interhôpitaux à Paris ont exprimé leurs craintes cet après-midi. Bonsoir Diane Berger.
Bonsoir.
Un rassemblement a été organisé dans le 13e arrondissement de Paris pour enterrer l'hôpital public. C'est le slogan de ce collectif.
Maquette d'hôpital portée comme un cercueil, musique de marche funèbre et une centaine de personnes du personnel hospitalier en guise de procession funéraire. Parmi eux, Guy, pharmacien en hôpital, il est inquiet du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Ça représente un désastre pour l'hôpital public parce que structurellement, les dépenses de l'hôpital augmentent à peu près 4% par an. On nous dit de nous restructurer, on l'a déjà fait beaucoup. Et il y a un moment où la restructuration n'est plus la solution. La solution, c'est que le soin, le juste soin, soit payé au juste prix.
À quelques mètres, Jacques, gériatre, il a observé comment le temps manque de plus en plus au personnel alors que les malades sont de plus en plus nombreux dans son secteur d'activité.
On n'a même pas le moyen, d'une part, de travailler dans de bonnes conditions, mais même plus le moyen de faire toutes les activités que l'on devrait pour prendre les gens en charge au mieux. Et ça signifie que même quand on essaye de tout donner pour que ça fonctionne, on se retrouve à s'épuiser les uns les autres et à n'avoir aucune perspective heureuse, en fait, dans la prise en charge de nos patients.
Les manifestants réclament aussi une hausse des salaires. C'est le cas de Sabine, infirmière à la Pitié-Salpêtrière. Elle est rémunérée 1 800 euros par mois.
L'hôpital est plus attractif puisque les salaires sont très bas. Mon salaire, il n'a quasi pas augmenté en 30 ans. Et donc les gens préfèrent aller travailler ailleurs plutôt que de venir à l'hôpital où finalement ça ne rapporte plus rien. Et pourtant on en a besoin pour soigner les gens parce que c'est un accès quand même populaire, l'hôpital public. On est là pour soigner tout le monde.
Même si le texte vient d'être adopté à l'Assemblée nationale, le collectif Interhôpital continue de se mobiliser. Il appelle à une nouvelle manifestation le 14 novembre.
Le reportage de Diane Berger. La ministre des Solidarités, Agnès Buzyn, promet des mesures pour rendre plus attractifs les métiers actuellement sinistrés de l'aide aux personnes âgées. Le gouvernement va lancer une grande conférence sociale sur ce sujet d'ici la fin de l'année. La ministre répond ainsi au rapport de l'ex-ministre du Travail, Myriam El Khomri, qui préconise de mobiliser 825 millions d'euros par an dans les années à venir pour ce secteur. Les perturbations se poursuivent ce soir à la SNCF sur l'axe Atlantique et la direction prévoit demain un TGV sur 3 de jeudi à dimanche pour le pont de la Toussaint. Encore quelques suppressions de trains à grande vitesse. L'entreprise en prévoit 8 sur 10. La grève se poursuit donc au centre de maintenance des rames à Châtillon dans les Hauts-de-Seine. Les cheminots réclament le paiement des jours de leur grève. Grève qui a démarré le 21 octobre mais aussi une prime de reprise du travail. Hakim Kasmi, bonsoir.
Bonsoir Anne Fauquemberg.
Et ces cheminots se sont rassemblés cet après-midi devant le siège de la SNCF à Saint-Denis.
Oui, pour les cheminots grévistes, même si la direction de la SNCF est revenue en arrière sur sa volonté de supprimer 12 jours de congés par an, les syndicats et les salariés demandent un geste. Elvis Toyer est électricien sur le site de Montrouge.
C'est très important pour nous de pouvoir bénéficier de ces jours de repos par rapport aux conditions de travail qui sont très éprouvantes sur les ateliers. Beaucoup de travail de nuit, beaucoup de travail de week-end, des journées de travail qui sont très longues aussi par rapport au temps de transport qui a augmenté. Certains habitent à plus d'une heure du technicentre. Donc tout ça, c'était très important d'avoir ces quelques jours de repos qui, pour le rappeler, datent d'il y a à peu près 20 ans.
Des conditions de travail qui deviennent de plus en plus difficiles avec la fin du statut de cheminot au 1er janvier et l'ouverture à la concurrence, ce qui se traduit aussi par des hausses d'arrêts de maladie, surtout par des suicides ces derniers mois, comme a pu le constater Clément, qui travaille à Lyon-Part-Dieu, dont l'un de ses collègues a mis fin à ses jours l'été dernier.
Il n'y a pas une journée, monsieur, où on ne trouve pas un collègue qui fond en larmes, en pleurs. On a des arrêts maladie qui explosent, il y a des suicides, on a une situation de type France Télécom, ouais.
Les résultats, c'est que de nombreux salariés démissionnent sur les technocentres, avec une hausse, comme par exemple 60 personnes qui ont quitté leur poste à Châtillon. Mais c'est aussi le cas, par exemple, au Landy, au nord de Paris, où sont entretenus les Eurostars et les Thalys, comme nous l'explique Fabien.
Moi, j'ai 20 ans d'ancienneté, je suis à 1600 euros, quoi. Comme on est en sous-effectif, on a des roulements qui changent tout le temps. Et puis, vu qu'on n'arrive pas à faire le travail, il y a beaucoup d'astreintes. Donc des agents qui sont obligés de travailler 7 jours sur 7 pour pouvoir que les usagers aient des trains corrects pour aller en sécurité pour voyager.
La direction de la SNCF refuse de céder, reçoit actuellement une délégation de Châtillon pour trouver une issue à la crise.
Merci Hakim Kasmi pour votre reportage. La météo demain, mercredi 30 octobre, de belles percées ensoleillées dans les Hauts-de-France, le Grand Est et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ciel nuageux partout ailleurs. Et les températures au réveil, 7 à Lille et Strasbourg, 8 à Paris, 12 à Lyon, 14 à Cherbourg, 15 à Bordeaux, 18 à Marseille et jusqu'à 21 à Ajaccio. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun, il est 18h20 sur France Culture. Emmanuel Laurentin, le temps du débat, c'est à vous.
Très exactement 18h20. Merci beaucoup Anne Fauquemberg.